entre la conduite humaine et l'ambiance, basée sur quelques connaissances de psychologie environnementale. Je travaille la psychologie environnementale et la conduite socio-spatiale humaine. Et je vous apprends quelques concepts un peu différents, surtout en termes de terminologie, mais on commencera par cela, on en parlera. Je vais commencer par quelques images que l'on pourra peut-être traduire comme ambiance. J'avais d'abord pensé à utiliser des images de hier, mais elles étaient si récentes et on n'avait pas encore travaillé dessus que j'ai utilisé ce que j'avais. Ce sont des ambiances, ce sont des environnements, ce sont des endroits que représentent ces images que je viens de vous montrer et beaucoup d'autres que nous avons vues aujourd'hui, hier, des photos que nous avons prises hier, que nous verrons bientôt. Où se trouve la différence entre les ambiances et les environnements, les ambiances et les endroits? Il y a-t-il des gens là ou non? Quels sont les facteurs qui composent ces ambiances? Cette discussion reprend la discussion que nous avons eue avant sur ce que c'est qu'une ambiance et je n'aurai peut-être pas la réponse et peut-être ma réponse commence-t-elle par l'union des facteurs visibles et invisibles qui composent un endroit. Et sans discuter l'ambiance parce que là, je suivrai l'esprit du colloque, mais à partir de mes connaissances, de connaissances environnementales, nous pouvons penser qu'il y a une relation directe entre, si l'ambiance demande de l'expérience, il doit exister une relation entre l'ambiance et la conduite socio-spatiale des gens. Cette ambiance influencerait la façon dont les gens se conduisent dans un endroit, comment ils utilisent un endroit. Et si l'on considère la conduite socio-spatiale comme une réunion de concepts et de facteurs, la prosémique d'Edouard de Rohl, quand il définit qu'il y a une relation entre les gens et que l'espace participe de cette relation de communication, la territorialité, non pas dans le sens de territoire géographique, mais dans le sens de territoire, de territorialité biologique de l'espèce, l'homme comme un animal qui a un territoire, qui définit son territoire en ville, la question de la privacité, de l'espace privé, non pas comme isolement, mais vu comme l'accès optimal de l'autre au moi. On peut réglementer ses frontières, on peut utiliser l'environnement justement pour faire la réglementation de ses frontières. Je veux rester seul, je n'ai pas besoin d'être dans un endroit où je suis seul physiquement, mais je peux m'asseoir quelque part dans cette salle où je pourrais m'isoler, par exemple, et où je veux être accompagné et je vais choisir un endroit où être accompagné soit plus simple. Si je veux être accompagné, si je veux être accompagné, par exemple, je ne vais pas rester toute seule dans ma chambre. La question de l'agglomération, non pas comme densité ou comme densité architecturale du nombre de gens par mètre carré, mais agglomération comme sensation subjective, de trouver qu'il y a trop de gens dans un endroit déterminé. Et la condition d'appropriation qui a été, dont on a parlé aujourd'hui, de s'approprier, de personnaliser ou de s'approprier, non juridiquement mais moralement ou subjectivement, un endroit. La conduite socio-spatiale humaine, ce serait justement la somme de tout cela, plus les concepts de Robertson et d'autres aspects. Mais nous allons voir justement que la base de cette conduite, c'est cela. Entre l'ambiance et la conduite, nous aurions la grande discussion qui sera la perception environnementale. Et dans ce cas, nous pensons à l'ambiance comme un concept de Forms de Gibson, qui c'est tout ce que l'environnement vous montre. Et l'environnement vous montre, si on le décodifie ou pas, là, on arrive au concept de forme. Si on arrive, disons, dans une salle, on va voir une surface horizontale qui est placée à 70 cm du sol et elle peut être dure, rigide, stable, pas avoir d'odeur, de son. Et là, il faut écrire quelque chose et on va dire ça c'est une table, je vais m'asseoir là et je vais écrire quelque chose. Il y a une table, une femme qui arrive là avec un enfant qui doit changer ses langes. Un enfant qui joue et qui veut se cacher quelque part. Quelqu'un qui porte quelque chose de lourd. Ah bon, je vais mettre ce que je porte ici là pour reposer mon bras. Là, ça va être un appui. Quelqu'un qui veut couper des légumes. Chaque personne va utiliser cette table de la façon dont elle décodifie ça. Ça, c'est la base de la théorie des formes.
Et ceci, quand Thibault nous présentera sa théorie de l'ambiance, passe par là. Donc, c'est une façon dont les personnes décodifient ceci selon leurs propres expériences et leur façon d'employer les espaces. Et pour vous parler un peu de la perception environnementale qui lie ces deux éléments, on peut employer la définition de Thuan qui parle de la perception environnementale comme un ensemble de sensations, expériences liées à un contexte socio-physique, culturel et temporel expérimenté par la personne dans un certain endroit. Il y a aussi Itelson qui, en 73, nous a dit que face à la perception de l'objet, la perception de l'environnement est différente de la perception de l'objet, car celui qui est l'observateur se trouve immergé dans cette situation parce qu'il se retrouve dedans. Dans la perception de l'objet, on se retrouve en dehors. Je regarde par exemple le micro, il est lointain, donc il est plus lointain, mais plus difficile de comprendre l'environnement parce que je me retrouve dans cet environnement. Et Thibault même nous a dit que nous ne nous apercevons pas de l'ambiance, nous percevons selon l'ambiance. Donc l'ambiance serait l'élément qui va influencer la perception et non vice-versa. De toute façon, les auteurs de psychologie environnementale disent que la sélection et assimilation des informations dépendent de chacun. Et donc, comment chacun d'eux vont assimiler ces perceptions? Comment est-ce que ceci marche? Donc, nous avons deux grands biais qui seraient celle qui est en fonction des intérêts, des motivations, des caractéristiques individuelles, âge, genre, condition physique, phase du cycle vital, background social, culturel, éducationnel, psychologique. Donc, des caractéristiques de la personne et aussi du genre de rapport que cette personne a avec cet endroit, si c'est une touriste ou si c'est un usager quotidien ou si c'est un chauffeur de taxi qui passe rapidement par là ou si c'est un piéton. Donc, quel genre de rapport est établi? Non seulement les caractéristiques de la personne, mais le genre de rapport établi. Il y a aussi une autre chose intéressante sur cette question de la perception, les trois temporalités qui sont liées à cette perception, à ce processus, qui serait en premier lieu le moment où ceci se passe, et puis ensuite la durée de ce contact, à quel jour, quelle heure, combien de temps dure ce contact, l'époque à laquelle appartient cet endroit, quel est le temps qui se retrouve dans cet endroit, quel est le temps qui se retrouve dans cet immeuble du MEC que nous employons aujourd'hui. Il y a un temps ici. Si nous étions dans un immeuble qui est enfin récemment construit, ce serait un autre temps. Ou si nous nous retrouvions dans un château du Moyen-Âge, ce serait un autre genre de temps. D'ailleurs, ce serait très bien, qui sait, peut-être une prochaine fois. Mais enfin, ce serait un temps qui serait assimilé à cet endroit. Et ensuite, nous avons le troisième élément qui est surtout par Zimbardo, dont le leader ici de la psychologie, qui est le temps psychologique qui se retrouve dans la personne. Il y a des personnes qui ont des comportements qui se fondent sur le présent. Elles ont des réactions immédiatistes et vont résoudre le maintenant. Et il y a des personnes qui prennent des résolutions fondées sur le passé, parce que ceci est déjà fonctionné comme ça, ou parce qu'ils veulent maintenir une certaine situation. Et il y a des personnes qui vivent d'accord selon le futur. Ils sont toujours en train de changer. Et donc, ces trois genres de temps se retrouvent dans cette perception. Quand on parle des études de psychologie environnementale, c'est surtout à de Kurt Levin. Il crée une formule qui n'est pas mathématique, mais que le comportement se trouve en fonction des rapports entre la personne et à les ambiances. Et c'est à partir de cela qu'il change plusieurs choses dans la psychologie. Puis ensuite, il y a Barker et Wright en 1951-68 avec des expériences de Ophthalmose où ils étudient le comportement humain non dans un laboratoire, mais à travers l'observation dans la nature. Et ceci change la façon dont on comprend le comportement des personnes. Et la troisième contribution serait celle des présupposés de la psychologie environnementale de Itelson, Prochansky, Rivlin et Winkel en 1974, et revue par Rivlin qui les a revus en 2002. Nous avons publié un article dans les études de psychologie, c'est très intéressant. Et donc, ils ont 8 présupposés qu'ensuite elle a transformé en 11, et c'est surtout, il nous faudrait comprendre ces présupposés pour mieux penser le concept d'ambiance. Je ne vais pas vous apporter ces concepts, mais enfin, je voudrais qu'on puisse les penser. Donc, l'environnement est vécu comme un champ unitaire. Donc, en dépit d'avoir plusieurs facteurs qui définissent cette ambiance, nous apercevons de cet environnement comme un tout, de cette ambiance comme un tout. Une seconde idée, c'est que la personne a des propriétés environnementales et ainsi que des caractéristiques psychologiques individuelles. J'ai des caractéristiques psychologiques, mais aussi des caractéristiques environnementales. J'ai poids, hauteur, la façon de m'approprier d'une ambiance. Il n'y a pas d'ambiance physique qui ne soit pas enveloppé par un système social et inséparablement lié à lui. Donc, on ne peut pas comprendre l'ambiance en dehors de la société. Nous vivons en société et enfin, on ne peut pas le nier. L'influence de l'environnement physique dans le comportement va varier selon la conduite en question. Si la conduite est très sophistiquée, l'ambiance peut-être n'aura pas tellement d'importance. Elle fait surtout de la différence pour les choses plus simples, par exemple des auteurs. Et par rapport à l'Église, ce n'est pas que l'Église soit merveilleuse et qui transforme la personne infidèle. On peut aller à une église pour la connaître, mais on ne va pas changer son attitude religieuse. Mais bien sûr, une belle église va contribuer. Bien sûr, une belle école va permettre que l'élève puisse avoir une meilleure performance, mais ne va pas changer complètement sa performance. L'environnement, l'ambiance fonctionne sous le niveau de la conscience. Donc, pas nécessairement nous sommes conscients de cet impact sur notre comportement. Et quelquefois, nous ne sommes conscients que quand l'expérience n'est pas tellement positive. Quand l'expérience est positive, on ignore l'ambiance, comme s'il était simplement un scénario, un contexte. L'ambiance observée n'est pas nécessairement l'ambiance réelle. Donc, chacun a un point de vue, une perspective et chacun a ses propres caractéristiques, certainement chacun de nous comprend cette situation ou perçoit cet endroit d'une façon différente. Donc la question est, qu'est-ce que le réel si chacun a une vision différente? Donc l'ambiance est organisée de façon cognitive en un ensemble d'images mentales, c'est ce dont on a parlé déjà. Et l'ambiance a une valeur symbolique. Et bien sûr, nous savons déjà, mais il nous faut rappeler qu'ils sont depuis 1974, ces présupposés ont été très innovatifs dans cette étude sur la perception. Et en conséquence, il me faut déjà compléter parce que j'ai peu de temps. J'ai encore 5 minutes, je ne sais pas. Bon, et c'est un aspect qu'il nous faut considérer. C'est non seulement de la perception environnementale, mais de la compréhension des ambiances qui sont dérivées de ces études. C'est cette question des attaches, attachment, comme on le traduit, ou lien à un endroit, le attachment, et on traduit en portugais comme apego. Donc cet attachement, donc ce lien affectif entre personne et ambiance qui a cet aspect émotionnel. Et donc Ney va parler aussi sur le Sahara, cette relation affective avec un endroit et non pas nécessairement un attachement de validation positive, peut-être négatif aussi. Donc un caractère dynamique, cet attachement peut changer, on peut continuer à attacher à un endroit, mais ensuite aussi s'attacher à un autre endroit et disons faire cette cohabitation avec ces deux endroits différents. Et il aurait des dimensions fonctionnelles, symboliques et de rapport, de relation. On peut avoir des rapports, des relations symboliques avec cet endroit qui symbolise quelque chose, mais peut-être aussi une question de fonction. Par exemple, un attachement économique, parce que cet endroit j'arrive à survivre dans cet endroit. Il y a plusieurs auteurs qui travaillent ces rapports, quelles sont les dimensions qui vont définir cet attachement. Et donc, on pourrait peut-être travailler avec leurs idées. De la même façon que la psychologie ambientale, environnementale travaille ceci, on pourrait en profiter aussi. Et aussi la question des temporalités, où l'on revient à la question du passé interactionnel et du potentiel interactionnel. Donc, on pourrait être attaché à un endroit à cause du passé, mais aussi à cause du futur que l'on pense qu'on y aura. Donc, j'achète un appartement qui n'est pas encore construit et je commence à m'attacher à cet appartement parce que je sais que je vais y habiter après mon mariage, par exemple. Et alors, je commence à m'attacher à cet appartement, à cet endroit. Cette personne commence à imaginer sa vie et elle va créer cet attachment à un endroit qui n'existe même pas encore. Il est intéressant parce que c'est, disons, un attachement virtuel. Et ce que je voulais vous montrer, les possibilités de recherche dans ce domaine à partir de la discussion de la perception environnementale et cette question de l'attachement. Mais il nous faudrait faire face à ce défi, à ces enjeux. J'ai encore 2 minutes, s'il vous plaît. J'aimerais vous expliquer le poisson. Qu'est-ce que ce poisson a? De quoi s'agit ce petit poisson? Il y a un texte de Robert Sommer de 78, il me semble, qu'il a fait une traduction de chercheur dans le secteur de psychologie et il s'appelle « Le poisson qui étudie l'eau ». Et quand on parle d'ambiance et quand j'ai mis le terme « comportement socio-spatial » dans l'ambiance, pour moi c'était très clair qu'on se retrouvait dans la même situation que Robert Sommer. Nous sommes les poissons et nous sommes en train d'étudier l'eau où nous nous retrouvons. Donc, enfin, j'ai décidé de vous mettre la photo du poisson qui n'est pas bien sûr humain, mais pour lui aussi, il y a cette ambiance.